Nous sommes mercredi 15 décembre 2021, vous avez survécu à la cinquième vague et c'est le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut.
Les affreux Jojo habituels sont là. Affreux Jojo, tiens, c'est extrêmement... voilà, tout va bien.
C'est années 80 ton truc, hein.
J'attends, ma barre.
Ok, boomer, hein.
C'est ça. Ah bah écoute, voilà, il y a... comment dire, on va faire gagner des casquettes de Waikiki, des sacs
des
bananes.
Oh mon dieu.
Des Ricard.
Des cendriers. Plus personne fait gagner de cendriers. Bref, tout va bien, vous pouvez le constater, cette émission est réalisée par des professionnels, n'essayez pas de reproduire ça chez vous. Voilà, le programme de cette semaine, oula, c'est de cette dernière émission de l'année, mais avec un super programme. Merci beaucoup. Alors je suis désolé d'ailleurs, je présente d'avance toutes mes excuses, il n'y aura pas de quiz sur cette émission, par faute de temps, malheureusement, c'est que ça prend beaucoup de temps à préparer. Le ticket Jira a été pris par personne, on comprend pas pourquoi. Bref. Donc, nous allons faire un bilan de l'année avec nos jeux de l'année. Alors, j'ai failli reprendre une liste exhaustive de tout ce qui était sorti cette année, mais en fait, je me suis rendu compte que finalement, dans les jeux de l'année, il n'y avait pas grand-chose. Ça va être très factorisé, en fait.
En ce moment, on va souvent revenir sur le même.
Voilà, ça, d'ailleurs on va probablement le faire qu'une seule fois. Hein. Ensuite il y aura le bilan business de l'année, parce qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses.
Le bilan argent.
Le bilan pognon. Ensuite nous allons... Alors j'ai réécouté vos prédictions de l'année dernière. Vous sentez venir la merde ou pas?
Bah ça a été mieux comme d'hab.
Alors non, il y a eu de très bonnes prédictions dans le lot.
Oh, est-ce que quelqu'un a prédit un Metroid?
Alors, Metroid Prime 4, vous l'aviez tous prédit.
Oui, mais ça, on le tente chaque année, je crois.
Il y a 2-3 autres trucs que vous tentez chaque année.
Et voilà. Zéro.
Non, non, non. Alors, non, il y a eu l'évocation du fait qu'il y avait quand même les 30 ans d'F-Zero l'année dernière. Histoire, si je voulais que je remue le couteau dans la plaie, voilà, c'est fait.
On en parlera après, non?
Mais on en parlera après, vous inquiétez pas. Madame Irma, ce sera la dernière partie de l'émission, de toute façon.
Ça s'appelle une chiaise, hein. Tu racontes de la merde sans arrêt, et à un moment, t'ajustes.
Non, une chiasse. Ah non, une chaise, pardon.
Ah, pardon.
C'est quoi, c'est une chaise Ikea, c'est ça?
Bref, mais nous allons commencer tout de suite par une petite déception, hein, je dois vous avouer. Enfin, même une grosse déception. C'est-à-dire que Nintendo prévoit un direct et c'est 2 heures avant le Dojo Bar. Donc là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
La fin des temps.
Vous rendez compte qu'on a dû modifier le conducteur à la dernière minute?
Vous vous rendez compte que je n'ai rien modifié du tout, je vous ai fait confiance.
Ouais, surtout, il était prêt à la dernière minute.
Oui, voilà, oui, effectivement, le conducteur, il a un peu eu du mal à sortir cette semaine.
Il vient de sortir du four, il est encore un peu chaud, c'est comme le pain.
C'est ça, il faut faire extrêmement attention. Surtout, prenez des gants.
C'est-à-dire qu'il est moelleux et bon.
Exactement.
Ça n'a aucun sens.
Vous sentez qu'on est un petit peu au bout d'un système. Mais voilà. Donc, je compte sur vous, concernant ce magnifique Nindies Direct, pour nous mettre simplement ce qui va pas, ce qui va pas, enfin ce qui était bien, ce qui a été présenté.
Oh, la partie qui va pas, ça va aller vite, hein. C'est plus la partie qui va prendre un peu de temps.
Bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant de présenter durant ce Nindies Direct?
Plein de choses.
Déjà le premier. Sea of Stars.
Ouais, par les créateurs de The Messenger. Du coup, n'est pas du tout un jeu d'action plateforme, mais un RPG. Un hommage...
Beaucoup.
De quoi?
Beaucoup. Mais alors, beaucoup. À Chrono Trigger.
Oui. Alors, c'est tellement poussé, ils ont le même compositeur.
Ah oui, quand même.
Bon, c'est pas qu'il va me plaindre. Hein.
Quand vous m'en aviez parlé un petit peu avant l'émission, quand on préparait, vous avez vu les air guillemets, là, ou pas?
On essayait de te faire croire qu'il y avait un trailer de Breath of the Wild 2.
Non, c'était un peu bâtard.
Oui, c'était bien vu.
Après, du point de vue de Nintendo est un éditeur indépendant.
Oui,
ouais, c'est vrai.
C'est vrai. d'une certaine manière, ça se tient. Oui, Sea of Stars, effectivement, ça avait l'air... c'était le truc qui avait l'air d'avoir tapé dans l'œil d'à peu près tout le monde. Hein.
Et du coup, ils l'ont foutu en intro.
C'est ça.
Parce que, pourquoi pas.
Moi, Et ça sort bientôt, ça sort hier 2022, donc en début d'année. Moi, ça va être Day One, comme on dit.
D'accord. Ok, donc un Chrono Trigger-like par les mecs qui ont fait The Messenger avec le même compositeur, effectivement, ça se...
Il y a du potentiel pour que ce soit bien.
Il y a du potentiel. Ensuite, qu'avons-nous eu d'autre ?
On a eu Alisha.
À tes souhaits.
Écoute-moi. Oh,
joli.
Ah, Twitch va nous striker, attention.
Qui est un jeu d'aventure de coop coréen. Je suis sur Gamekult en train de refaire la liste. Est-ce que c'est celui où il y a deux sœurs qui sont dans un temple, elles doivent coopérer?
Ouais, c'est celui-là. Okay. Et les éclairages, pour le coup, faisaient bien penser à Breath of the Wild.
Voilà, donc c'est un jeu qui se veut mignon, je crois qu'il sort au printemps, quelque chose comme ça. C'est de la coop avec des énigmes. Et si j'ai bien compris, les deux sœurs ont des gameplays différents, qui en plus vont exploiter les spécificités des manettes Switch. C'est-à-dire qu'il y en aura une où il y aura du pointeur et l'autre on pourra utiliser le tactile de l'écran de la Switch.
Du coup, personne n'utilise l'infrarouge. Oh.
Voilà.
C'est triste. Il y en a un qui utilise le NFC et l'autre l'infrarouge.
Oh, pas qu'il n'utilise pas le NFT. Ouais. Voilà, voilà. Ensuite, après ça, on a eu un point and click british qui s'appelle Locomotive. On va pouvoir alterner entre trois personnages pour résoudre un meurtre dans un train. Donc très inspiré de... probablement de Agatha Christie et du crime de l'Orient Express. Sauf qu'en fait, nos héros ont l'air d'être un peu des branquignoles, parce que je crois qu'on a un avocat un peu flemmard, un mec qui se prend pour un détective, et on a une espionne de la reine d'Angleterre. Alors, elle a l'air d'être un peu plus sérieuse que les autres, mais... c'est des mecs qui sont des gros fans de Point & Click qui ont fait ça. Et ce sera tout en pixels, et ça a l'air plutôt chouette.
Ouais, c'est Chucklefish qui fait ça, donc c'est des mecs qui avaient fait, si je dis pas de conneries, qui avaient fait War Groove.
Oui, bah
c'est Wargrove, c'est l'histoire de dernièrement.
Et voilà, ouais. ça a l'air cool. Il y a une bonne dans le petit trailer, il y a une bonne ambiance Tim Schafer pour les vieux qui nous écoutent.
Beaucoup de vieux. Cool. Non, mais ça a effectivement l'air assez cool vu comme ça. Ce qui me convainc un peu moins, c'est le côté pixel art, mais après, si c'est bien exploité, ça peut être rigolo. Je sais qu'il y avait
X-Files, Symbol with Road ou un truc comme ça.
Non, il y avait un truc qui s'appelait Nightside Detective, je crois, quelque chose comme ça, qui était un jeu tout en pixel art, mais avec des très gros pixels, et du coup, quand on te disait qu'il fallait vraiment aller pointer au pixel près sur un truc, c'était vraiment un pixel sur lequel il fallait aller pointer.
D'accord.
C'était assez drôle comme principe. Il y avait des petites choses comme ça amusantes. Bref, est-ce qu'on a d'autres choses notables ?
Dungeon Munchies, ça c'était action-aventure 2D, je suis pas hyper accroché au principe, sinon...
Disponible aujourd'hui.
Ouais, c'est vrai. Sinon, bon, voilà, ça a l'air d'être un jeu d'action, aventure 2D. Enfin, voilà. Au moment, tu t'attends à ce qu'ils te disent coucou, c'est un Metroidvania, et en fait, non. Et l'originalité du truc, c'est que tu dois cuisiner tes ennemis. On va aller voir dans le détail.
Et en fait, les cuisiner les ennemis te donnent des pouvoirs. Et t'as différentes recettes. Alors, je sais pas après si ça tient bien sur la longueur. Le gameplay intéressant au final. Ça pour le voilà, coup,
c'est le principe d'une indie, de temps en temps tu mets la lumière sur des petits jeux qui auraient jamais eu la chance d'avoir une promo sinon.
En vrai le principe est marrant, parce que genre dans le trailer ils montraient des choses genre une banane qui avait l'air complètement perché et qui disait mange-moi.
Ok.
On n'est pas convaincu.
Non, je suis pas convaincu. L'humour dans le jeu vidéo c'est le genre de truc où ça marche quand c'est au second degré. Et en fait là j'ai pas l'impression que ce soit tellement le cas. Donc
On a eu le coup. Vas-y.
Dans les trucs notables, enfin en tout cas moi j'ai retenu, donc on avait Endling Extinction is Forever, qui est un jeu espagnol. Ouais. On va jouer une maman renard qui doit emmener ses enfants dans un lieu sûr, donc dans un endroit où les humains ne peuvent pas atteindre, parce qu'en fait on est dans une espèce de monde où les développeurs ont clairement dit, voilà, il y a une volonté de faire un truc écolo, montrer aux joueurs qu'est-ce que ça donne sur l'impact des êtres humains sur la nature et de les faire réfléchir. Ça a l'air tout mignon. Je pense que ça va être un jeu un peu dans le style The Last of Us, mais avec des moyens beaucoup moins élevés, hein, évidemment. de suivi narratif avec des scènes cinématiques et quelques petites animes avec de l'infiltration. Moi, ça m'a un peu tapé dans l'œil.
Ouais, parce que bien, plutôt cool.
En tout cas, j'aime bien l'idée que les mecs ils disent voilà, on veut faire un truc écolo et on l'assume. À voir si ce sera intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ?
River City Girls 2.
Voilà, j'allais passer sur celui-là.
On l'a pas déjà vu. Il a pas déjà été présenté il y a un petit moment celui-ci ?
C'est possible. Le 1. Après, le 2, je savais pas qu'il existait.
Le 2, ça fait pour moi un petit moment qu'il avait été annoncé avec un style. Enfin. Une direction artistique un petit peu différente du 1. Peut-être un peu plus. J'allais dire réaliste. Bon, au contraire, j'allais dire plus. Enfin, en tout cas, ce qui nous a été présenté, c'était quelque chose de très.
Bon, là, on reste sur du pixel, mais c'est plutôt fin.
D'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les artworks de River City Girl 1 étaient plus. On va dire plus animé, alors que là ça fait un peu plus sérieux, ça ressemble un peu plus aux artworks de Street of Rage 4, je trouve. Mm-hmm. Ça va pas jusqu'au crayonné comme ça, mais ça ressemble un tout petit peu plus à ça. Donc, bonne nouvelle, parce que River City Girls c'était un très bon jeu de la série Kunio-kun. C'est un officiel de la série Kunio-kun.
Ah bah là, Kunio sera jouable.
Ah, en plus, si Kunio est jouable, c'est vrai que c'est. Mais voilà, c'est original, rigolo, très drôle.
Ça a l'air d'être globalement le 1, mais boosté avec plein de nouveaux trucs partout.
Ouais.
Moi, ça me tente plus que le premier, honnêtement.
D'ailleurs, ils insistent dessus. Hein, dans le trailer, t'as une phrase, à un moment, ils disent quand on dit nouveau, on dit bien nouveau.
Oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont eu le temps de poster sur pas mal de choses depuis, vu qu'ils ont déjà tout qui est disponible, en fait. Il faut qu'améliorer.
C'est-à-dire que le 1 était une espèce d'hommage, donc effectivement, c'est pas un remake à proprement parler, mais c'était plus une espèce d'hommage à River City Ransom, notamment. Alors qu'en France, je crois, c'était sorti le tout le nom de Streets of Gangs.
C'est même pas un hommage, parce que ça fait partie de la série des River City pour le coup.
Oui, mais au sens où le jeu lui-même était c'était à la fois une suite et un remake de River City Ransom. Tu retrouves beaucoup de décors de ce truc-là, il y a des mécanismes qui étaient communs. Si là, les mecs ont réussi à se détacher un peu de ça pour essayer de faire une vraie suite plutôt que cette espèce de remake slash hommage slash je sais pas trop quoi, bon, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'effectivement, ils vont peut-être pouvoir apporter des choses vraiment nouvelles, comme Street of Rage 4 l'a fait, en mettant vraiment des choses nouvelles sur la table. Voilà. Est-ce que ce sera tout, messieurs, ou est-ce que vous avez un autre truc à glisser ?
Moi, j'en ai deux petits qui m'ont bien tapé dans l'œil. Donc, il y a Chicory A Colorful Tale qui est sorti aujourd'hui même. C'est un jeu où on joue un chien qui est chargé de repeindre le monde et qui a eu pas mal de bons retours dernièrement. Et si j'ai bien compris, en plus, on pourra peindre le monde avec sa Wiimote, avec son Joy-Con, pardon, sur Switch. Et avant qu'on pose la question, non, ce n'est pas un remake d'Okami. Bien que les prémices soient les mêmes.
Ni de The Blob.
Bah, peut-être c'est plus proche de The Blob, je pense.
Je pense que ça va être plus proche de The Blob, peut-être un peu moins orienté plateforme action.
Ça a l'air d'être plus un Zelda 2D. De ce que j'ai cru comprendre. Il y a un côté plus Zelda 2D, vu de dessus, énigme et compagnie. Et le second.
C'est où dans la timeline de Splatoon ?
C'est une très bonne question. Bah, il n'y a pas de chat.
Ah oui. Donc c'est avant la catastrophe qui a mené à la disparition de tous les mammifères sauf deux chats.
Exactement.
La timeline de Splatoon, c'est parfait.
Et le second, c'est Omori, qui est un RPG, un dé japonais, qui a des énormes vibes Earthbound et Undertale, qui du coup, moi, m'a forcément bien, qui m'intéresse fortement, et qui dit aborder des thématiques lourdes, quoi. C'est comme ça que ça a été vendu dans le Indies. Donc il faudra peut-être s'attendre à un truc un peu lourd. Je sais pas dans quelle mesure ce sera. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, le jeu existe déjà sur PC, donc je pense qu'on peut se renseigner là-dessus. Mais ça parle bien à ma fibre d'amateur de Mover qui sait qu'il n'y en aura pas d'autres de Itoy. Donc là, c'est. Je sais comment il s'appelle le mec, mais globalement, à la base, c'est un illustrateur. Et en fait, là, il a fait le scénario, la production. C'est un artiste complet sur le jeu, donc c'est encore ça promet d'être un truc intéressant en tout cas.
Très bien. Mec, toi, un dernier petit truc notable à part les thématiques lourdes. Voilà, un off qui n'est pas vraiment un off qu'un jour je vous révélerai.
C'est tout.
Bah, c'est tout. Je pense que Mec, toi, nous a quitté.
Là, désolé, j'ai des petits trucs.
Ah, il a des petites, il a des petites couilles.
Moi, c'est ça que j'ai entendu. Bezel.
Ok, il coupe.
Là, c'est la version qui est jouable en multi. Voilà.
Faudrait que tu nous redonnes le nom du jeu, Mecton, parce que tu as...
The Holy World.
Don't Starve Together.
D'accord, qui est déjà sorti sur PC il y a un petit moment, il me semble.
C'est ça. C'est
je t'étonnais qu'il ne soit pas déjà sur Switch.
Effectivement, moi, j'étais à peu près sûr qu'il était déjà sur Switch. En vrai. Bref. On va marquer une première petite pause musicale après ce petit résumé des Nindies Direct et nous allons nous écouter un petit morceau de la bande originale de Metroid Dread. Alors, je trouvais un autre morceau qui me donne pas envie de m'ouvrir les veines. Quel BO de merde, putain, sans déconner. Bref, donc on va s'écouter le morceau qui s'appelle Artaria 2. Donc c'est quand on revient à Artaria quand elle est gelée, me semble-t-il. Je crois que c'est ça. Bref, le morceau dure un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Alors, on va glisser un tout petit mot des Video Game Awards, qui était d'une tristesse sans nom.
Comme d'hab, ce que j'ai préféré, c'était les moments musicaux. Le reste...
Ah non, mais surtout cette année, c'était quand même... Enfin, pour que It Takes Two gagne le jeu de l'année...
Ah, c'est un bon jeu.
J'ai pas dit que c'était un mauvais jeu, j'ai juste dit que c'était quand même... Enfin, tu sens que l'année a été compliquée pour tout le monde, quoi.
Et déjà, Mecton, j'apprends que t'as pris le temps de les regarder, c'est pas mal, hein.
Attends, en replay, en zappant, en arrêtant que ce que...
En zappant 90% du contenu, quoi.
Voilà, en ne regardant que ce qui m'intéressait.
Même niveau annonce, on n'a pas eu grand-chose de... Enfin, il y a eu pas mal de bonnes annonces, mais c'est vrai qu'en tant que joueur de console Nintendo, c'est un peu limité.
Bah, c'est-à-dire que même Nintendo n'a pas gagné la catégorie des jeux Nintendo.
Voilà.
ce qui est quand même... d'une tristesse sans nom. Alors voilà, It Takes Two, je dis pas que... Voilà, je sais pas, pour cracher sur le jeu, il est peut-être très bien, j'en sais rien, j'y ai pas joué. S'il a gagné le jeu de l'année, c'est qu'il est forcément pas si mal que ça. Mais quand tu regardes par rapport à ce que t'as eu les années précédentes, c'est quand même... Tu sens quand même le cran du dessous, quoi. Même au niveau des nominés, hein, t'avais quand même une certaine tristesse pour que Far Cry 6 soit nominé.
Ah oui, par contre, c'est un peu honteux.
Mais c'est ça, t'as l'effet Covid, je pense. Parce que finalement... L'année 2020 était très compliquée, ça commence à se ressentir en 2021, tout ce qui était amorcé pour sortir en 2020. Il y a peut-être eu des retards, mais globalement, ça a fini par sortir, et par sortir dans un état raisonnable. Mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre dans la gueule l'effet Covid. Effectivement, il y a eu un gros ralentissement.
En plus, je crois qu'en 2020, il y a eu une année où tu as beaucoup, à mon avis, d'éditeurs et de développeurs qui ont pu faire des rentrées d'argent sur leur back catalogue, parce que bah, tout le monde s'est mis à jouer, et ils se sont dit, bon, on peut se permettre de prendre du retard sur nos... Une grosse sortie. Hein.
Alors, je me demande s'il n'y a effectivement pas un effet de ce type-là, parce que...
Et aussi le fait qu'il y a des nouvelles consoles qui, même si elles se vendent bien, sont difficilement trouvables, et je pense qu'aussi, il y a cette espèce de transition entre deux générations qui fait que, en termes de sortie, c'est limité. Hein.
Ce que j'allais dire, les nouvelles consoles, il y a quoi d'intéressant?
Surtout, ils doivent gérer 4 machines différentes, puisque apparemment, une des exigences de Sony, c'est d'avoir des jeux qui sont compatibles PS4 et PS5.
Bah, ça va peut-être poser un problème à un moment pour la vendre aussi. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ça fait partie des questions qu'on peut légitimement se poser. C'est-à-dire qu'en tant qu'éditeur, aujourd'hui, t'as un parc installé de PS4 qui est quoi? 190 millions de machines? 100 millions de machines?
Plus de 100 millions.
Voilà, si tu dois faire ton jeu comme étant forward compatible, je sais pas comment on dit, pré-compatible PS5, ça doit pas te coûter grand-chose. Donc, t'as un parc de 100 millions d'installés et t'as les... 10 millions de PS5 déjà vendus, peut-être même pas 5 millions, je sais plus exactement. Je crois qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc tu peux déjà profiter en sortant ton jeu sur PS4, à quoi ça te sert de te priver du parc de PS4 en le sortant sur PS5. Enfin, je veux dire, t'as un côté très schizophrène là-dedans qui avait été évité entre la PS3 et la PS4, parce que finalement la transition avait été faite relativement vite, parce que la PS3 avait duré très longtemps. Je rappelle que la crise de 2008 avait frappé juste avant, et finalement la génération PS3 Xbox 360 a été anormalement
longue. En plein milieu. Ça avait frappé en plein milieu. Exactement. De la génération.
Donc de 2006 à 2013, il s'était rien passé parce que bah basiquement voilà, 2008 c'était le bordel, 2009 c'était le bordel, 2010 on n'arrivait pas à s'en remettre, 2011 on commençait un peu à sortir la tête de l'eau relativement, et ça avait touché absolument tout le monde, ça. Donc là j'ai l'impression que tant que la PS5 a pas vraiment décollé.
En fait, elle se vend bien, la PS5, mais
non, c'est pas acquis, quoi.
Bah, un, c'est pas acquis, et puis comme t'as les problèmes d'approvisionnement... Mais je pense qu'aussi, les gens sont juste frileux à devenir exclusifs sur une console, quand, comme tu dis, il y a 100 millions de PS4 dans la nature, et les jeux se vendent encore bien dessus. Hein.
Oui, puis globalement, faut voir qu'entre la version PS4 et la version PS5 d'un jeu, aujourd'hui, si tu regardes le trailer sur YouTube en 1080p, bon bah...
En fait, la différence, ça va surtout être plus de stabilité et plus de fluidité.
C'est une expérience plus fluide et peut-être plus agréable, mais c'est vrai que globalement... Alors oui, si t'as de la 4K, t'as peut-être du 120Hz, t'as FPS, t'as peut-être du ray tracing, enfin bon.
Et puis t'as les PS4 Pro aussi, hein, ça crée une espèce de... En fait, il y a ça aussi, c'est que c'est pas juste ils doivent le faire pour PS4 et PS5, c'est qu'il y a aussi la PS4 Pro entre les deux. T'as la même chose chez Xbox, donc ça devient compliqué au bout d'un moment.
Alors, je pense que chez Microsoft, ils sont plus emmerdés, parce qu'il faut quand même se rappeler que le dernier, donc Halo Infinite, il est sorti sur Xbox One S, Xbox Series S, Xbox Series X... Donc lui, il sort vraiment sur 4 ou 5 plateformes différentes.
Quel jeu ?
Le PC.
Oui, Halo Infinite.
Ah oui.
Je pense qu'en termes d'optimisation, aujourd'hui, te dire la Xbox One magnétoscope, ça doit commencer à devenir compliqué quand même. Hein. Alors je tourne dessus, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Très bien, hein, gros coup de chapeau aux développeurs pour l'avoir fait, mais je pense qu'effectivement, ça va commencer... Enfin, cette politique va commencer à devenir compliquée.
Bah, il y a un moment, ça va être comme les téléphones, hein. Il va plus être supporté.
Il va bien falloir, ouais.
La console va plus être supportée par le. Enfin, ton jeu va pas être supporté par la console, les vieilles consoles.
Ça va finir par arriver, hein. Je doute que ça dure très longtemps.
C'est ça.
Et pendant ce temps-là, Nintendo réalise les meilleures ventes de la Switch, de son histoire.
Bah, il n'y a qu'une console, c'est facile.
Voilà, elle est peut-être pas très puissante, mais au moins il n'y en a qu'une.
Ouais, après, moi je trouve qu'on aurait. Enfin, ça fait partie des choses que je veux aborder, j'en profite. Mais je vais voir peut-être avec Disco Elysium, c'est qu'on sent quand même une console qui commence à être un petit peu en retard par rapport au reste du marché, où tu sens que t'as des jeux, même des jeux indés un peu ambitieux entre guillemets, ils se sentent à l'étroit. Et bah, c'est vrai que c'est un peu toujours décevant de se dire, bon, j'ai envie de prendre ce jeu indé sur Switch, mais je vais avoir quand même une version qui sera moins bien, parce que je le prendrai pas ailleurs. Bah, c'est dommage, parce que pour moi, le jeu indépendant, ça reste un des gros arguments de la Switch en tant que console. Parce que c'est là où il y en a le plus, c'est là où ils sortent en premier généralement, c'est pour ces supports qui sont optimisés. Mais si en plus, niveau AD, ça commence à être compliqué sur Switch, bon, j'aime bien Nintendo, mais je vais pas me contenter que de leur jeu, quoi.
Bah, je pense que... On en discutera peut-être dans la partie Madame Irma, mais effectivement, il y a du... Ça va commencer à poser problème, je pense, à un moment ou à un autre. Voilà. Donc on va attaquer avec nos jeux de l'année. Alors ce sera séparé en trois catégories parce que c'est ce que vous avez suggéré, en fait, tout simplement. Sur le forum, il y a Monsieur Antix qui a posté un truc en disant « Hey, on va faire ça comme ça ». Donc je dis « Ok, on va faire ça comme ça ». Donc le premier gros morceau, ça va être les jeux de l'année, c'est-à-dire vraiment les meilleurs jeux de cette année. Alors sur Switch, mais pas que, parce qu'il y a des gens qui ont triché.
T'avais dit pas que Nintendo. Hein.
J'avais dit pas que Nintendo. Donc on finira par les pas que Nintendo, mais voilà, c'est pour le principe. Donc on a commencé par Metroid Dread. Je pense que voilà.
Mm-hmm.
Bah, pas trop de débat.
Bah, en plus, moi, c'est un jeu parce que là, quand on en avait parlé à l'émission, je l'avais fini qu'une seule fois. Ou je sais plus, non, je l'ai fini qu'une fois. Je l'ai refait deux fois depuis. En 100% en moins de 4 heures en normal et en hard. Et c'est un jeu qui, je trouve, se bonifie quand il rejoue. Parce que tu vas beaucoup plus vite sur les boss, tu connais comment les battre rapidement. Tu peux même essayer de commencer. Moi, j'ai commencé à essayer de faire du sequence breaking et c'est très très drôle. Obtenir la combinaison de gravité avant d'avoir le saut spatial, bah, ça t'oblige à réfléchir un petit peu différemment comment tu vas gérer les différents niveaux. Et tu te rends compte aussi que le design a été pensé pour ce genre de choses. Bon, en particulier quand tu connais le mode comète, enfin le Shine Spark, quand tu gardes ta charge d'accélération et que tu l'utilises pour sauter pas très loin. Et il y a énormément de choses qui ont été trouvées sur le jeu. Si vous voulez refaire une partie, je vous recommande de vous intéresser un petit peu aux séquences break, notamment comment obtenir les bombes les bombes en avance pour tuer Kred en un coup. Vous allez voir, c'est assez rigolo.
Effectivement, il y a plein de choses à voir. Alors, Metroid Dread, on a fait toute une émission dessus, on en a parlé abondamment, donc évidemment, on va vous renvoyer là-dessus. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un gros gabarit, le seul petit bémol. Alors, il a gagné, lui, le jeu d'action-aventure de l'année au VGA, quand même. Et c'est parfaitement justifié de ce point de vue-là, parce que je pense qu'il est vraiment tout à fait calibré pour ça. C'est peut-être dommage d'avoir raté le jeu de l'année, même si je suis pas certain qu'il le méritait au sens où...
Je pense pas qu'il le mérite. Mais...
Moi, c'est surtout le sound design que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment poussif.
Alors, sound design, ça va, c'est plus les musiques qui sont assez... Ça, pour le coup, c'est le seul truc qui est jamais rentré au bout de trois runs. Alors que pourtant, les musiques de Metroid, normalement, ça s'incruste dans ton crâne.
Oui, non, je confirme, les musiques, c'était vraiment... C'est le côté, je trouve, le plus décevant, mais même il y a tout un côté sound design qui n'est pas très réussi. Par contre, le reste est vraiment extrêmement réussi. Et je veux bien croire, effectivement, que ça se bonifie en le refaisant. C'est-à-dire que quand on commence à en connaître les recoins et qu'on n'est plus surpris par un certain nombre de choses, on doit pouvoir commencer à bien retourner le jeu.
Ouais, en fait, je trouve que c'est là où ils ont réussi à capturer l'essence de Metroid 2D, en tout cas... Une partie de l'essence, le côté en tout cas speedrun et le rejouer. Et le rejouer, c'est plus tu rejoues, plus t'es familier, plus t'es à l'aise et plus tu vas tenter des choses que tu ferais pas. Et c'est ça que je trouve vraiment bon en fait. Enfin, c'est là où je le trouve réussi en tout cas.
Tout à fait. On nous a proposé aussi WarioWare. Alors c'est vrai que WarioWare, ça va être le gothi de quelques personnes.
Oui.
Voilà.
Alors,
il y a plein de gens sur le forum dont ça va être le gothi. Hein.
Donc vous connaissez la recette du WarioWare où tu as une cascade de mini-jeux qui t'arrive sur la gueule. Jusqu'à présent, la boucle de gameplay avec des gros guillemets, c'était comprendre ce qu'il faut faire et le faire.
Une boucle d'à peu près une seconde.
C'est ça.
Je précise.
Dans cet épisode,
en moins d'une seconde, il faut que tu comprennes ce qu'il faut faire
et le faire. Dans cet épisode, c'est comprendre ce qu'il faut faire, comprendre comment tu peux le faire et le faire.
Putain.
Et ça, c'est génial. Et ça, c'est vraiment génial. Parce que du coup, en fait, tu as, je sais plus, je crois qu'il y a 200 mini-jeux, mais vu le nombre de personnages, ça, bah, ça multiplie la possibilité de se marrer un bon coup. Quoi.
Et alors, est-ce que le mode multi est bon ?
Je t'avoue que je ne l'ai pas encore essayé, mais je crois que c'est Tardy qu'il a testé avec ses gamins sur le forum, et il paraît que tu te tapes des bonnes barres, quoi.
Bah, c'est un peu le principe de base d'un WarioWare. Hein. Si t'as pas un multi où tu te tapes des barres, mais vraiment, tu t'es vraiment écroulé de rire sur ton canapé, bon, c'est pas un WarioWare.
C'est ça.
Y a pas beaucoup de WarioWare avec du multi, hein, à part le GameCube.
Sur Wii, il y avait du multi.
Ah oui, ok.
Oui, après, sur les épisodes console portable, oui, je veux bien croire qu'il y en a pas beaucoup. Même si il y a peut-être des modes avec du câble Link ou des choses comme ça.
Ouais, il y avait pas de scoring. D'ailleurs, il y a un truc dont on n'avait pas parlé sur celui-là. Il y a un online avec un défi hebdomadaire, un peu comme dans Rayman Legends. Et chaque semaine, les règles du défi changent. Du coup, chaque semaine, c'est la surprise, quoi. Quand tu vas te retrouver avec un personnage que tu ne maîtrises pas du tout et que la chaîne de mini-jeux commence à la vitesse maximale dès le début, ça fait bizarre. Et tu te marres bien.
Oui, je me doute que c'est le genre de truc où que tu gagnes ou que tu perdes, de toute façon, tu te marres bien parce que tu vas rager, quoi.
C'est ça.
En fait, c'est juste ça. Alors, il en a déjà parlé sur cette antenne, mais il avait envie d'en reparler parce que c'est un de ses jeux de l'année et presque en premier, je pense à Disco Elysium, Monsieur Antix. Je vous laisse.
Ouais, très 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 bonne simulation de détective bourré amnésique. Oui, parce que c'est un RPG, donc il faut être amnésique.
Et est-ce que les animaux de la forêt se comportent bizarrement ?
Alors non, parce que du coup, contrairement, c'est pas un RPG japonais, c'est plus d'inspiration RPG occidentale. Avec vue du dessus, gros choix de dialogue, pensez les Fallout, mais pas de combat. Le jeu se fera avec des dialogues. Principalement, c'est plus des combats d'esprit. Et on va du coup jouer un policier qui se réveille avec une gueule de bois, mais de l'infini. Il ne sait plus ce qu'il est, d'ailleurs, il ne sait même plus qu'il est policier, il faut que c'est les autres personnages qui vont lui dire. Et il va se retrouver embarqué dans une enquête pour élucider un meurtre, un mec pendu à l'arrière de l'hôtel où il a eu lui domicile depuis quelques jours. Et une enquête qui va se faire sur fond aussi de grève ouvrière dans une espèce de ville qui, à mon avis, est inspirée de l'Europe de l'Est, post-communisme.
C'est pas un jeu qui a été développé d'ailleurs en Europe de l'Est. C'est pas
ça,
un...
Je crois que le créateur principal est estonien.
Ah oui, du coup, c'est il y a peut-être moyen que ça tire une petite inspiration des grèves de Saint-Pétersbourg de 1913.
C'est fort possible. Bon, en tout cas, clairement, l'inspiration du passé communiste est présent parce qu'on te parle de révolution, d'avoir fait tomber un roi. Dans le passé, t'as beaucoup d'éléments comme ça qui font partie de l'histoire du jeu et qui sont clairement d'inspiration réelle. Hein. On a un équivalent de l'Union Européenne, on a un équivalent de l'ONU qui doit traîner dans les coins. C'est un jeu qui pose beaucoup de questions, qui est très politique. Hein,
Tiens, du coup, tout se veut réel, t'as pas de bestioles bizarres ou de...
Non, il n'y a pas de bestioles bizarres. Tous les trucs fantastiques, c'est plus des légendes urbaines, donc on va être confronté à ce genre de choses. Il y a quelques délires un peu, puisque le héros est sujet à la drogue, à l'alcool et aussi à la drogue.
Okay.
Donc il y a moyen un peu de...
La drogue.
Ouais, c'est ça. Et bah, surtout, en fait, voilà, le truc le plus fantastique, c'est que... Les caractéristiques de ton personnage, ça va pas être des trucs genre la force, la dextérité. C'est en fait 24 personnalités réparties dans 4 grands traits différents liés. Alors, c'est de mémoire, c'est l'intelligence, tout ce qui va être capacité de réflexion, la psyché pour tout ce qui va être capacité à l'empathie, à en tout cas à jouer avec l'esprit des gens. Tu vas avoir tout ce qui va être lié à la perception, donc le côté un petit peu. Les 5 sens, la réactivité et la côté physique qui va être principalement l'endurance, mais aussi des petits trucs un peu sympas dont ma personnalité à la fois préférée et détestée qui s'appelle l'électrochimie et qui est celle qui te dit eh, tu vois cette meuf là-bas, elle a envie que tu la baises. Un truc comme ça.
What?
Voilà, lui c'est le.
Très
lui,
bien.
C'est un petit peu le truc qu'il ne faut pas écouter. Enfin, si t'as envie du réglo, parce que tu peux aussi jouer comme un gros connard, c'est un RPG.
Un pouvoir qui serait bien utile dans la vraie vie.
Ça, c'est ton subconscient ou ton meilleur pote.
D'accord. Donc une forte recommandation de ta part, y compris sur Switch d'ailleurs ou...
Alors.
Voilà.
Première remarque, c'est un jeu où il y a énormément de texte. Alors tout a été doublé dans la version Switch. Et j'espère que vous aimez les accents parce que il y a que tous les doublages sont en anglais mais avec des accents. Et des accents français, c'est d'une beauté. Alors, c'est très inspiré c'est aussi très inspiré de Germinal. T'as beaucoup de. Ça s'entend plus dans la VO, forcément, enfin, dans la version anglaise. T'as beaucoup de mots français. Genre, il y a des mecs qui disent marée chaussée alors qu'ils parlent en anglais.
Oui,
un petit truc comme ça.
Le fabuleux, le tag où il y a écrit possède sexuellement la marée chaussée.
c'est très
important.
C'est comme ça. Et alors sur Switch, moi je recommande avec attention. Moi j'ai pris sur Switch parce que je peux jouer en portable et c'est super sympa pour jouer au boulot dans les transports.
Ça va les textes sur l'écran en portable?
Ça va très bien. On peut régler. Par défaut ils sont sur la plus grosse. Ils sont sur la police la plus grosse.
J'ai bien fini cette phrase rapidement.
Ouais, c'est ça. En fait, là où c'est un peu plus problématique, c'est que bon, ça se voit que c'est une petite équipe et à mon avis, ils n'ont pas eu le temps de trop gérer ça et d'optimiser. Mais il y a quelques ralentissements, notamment quand il y a un peu trop d'effets type pluie ou neige. Alors le pire étant la neige qui en plus crée des problèmes de son. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir des plantages sur le jeu régulièrement. Pendant les transitions, en fait, pendant les chargements, ils crachent. Donc ce que je recommande, c'est si vous êtes sur Switch et si vous êtes comme moi du genre à toujours laisser votre console en veille, avant de faire une transition d'écran, faites une petite sauvegarde. On sait jamais. Pas très long, ça vous coûte pas grand chose, ça vous évitera peut-être de vous retaper des dialogues.
D'accord, c'est noté. Le dernier jeu de la sélection, c'est aussi toi qui l'avais amené, Antique, c'était Tales of Arise. Alors ouais, il me semble qu'il va sortir sur Switch celui-ci.
Je pense pas, vraiment pas.
Ah,
mais
peut-être confondu.
Sur PS4 normal, tu sens déjà qu'il est.
Qu'il est un peu à l'étroit.
Il est un peu à l'étroit, bah, c'est du 30 FPS. Hein. Là, pour le coup, ça fait partie du jeu où clairement sur PS5 c'est plus intéressant pour la fluidité. Pas du tout sur PC. Et je pense que c'était un peu mon. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un très bon Tales of comme ça. Et à part le dernier donjon avec ses monstres sac à PV qui est abominable, j'ai passé un super moment sur le jeu. Je recommande si vous avez le support pour y jouer.
Très bien.
Surtout si vous avez les Symphonia et Vesperia.
Très bien.
C'est une bonne recommandation.
On va passer à la catégorie C'était bien marrant. Qui est la catégorie les jeux
c'est la catégorie
qui, en fait,
d'hiver.
C'est un peu ça. C'est la catégorie où t'as les jeux qui payent pas de mine mais qui font plaisir. Hein, on va quand même se le dire. On va commencer par Bravely Default 2, puisqu'il avait été sélectionné par Becton et par Antix, et c'est aussi un jeu auquel on avait consacré une émission complète pour expliquer plein de choses. Donc pourquoi est-ce que c'était drôlement bien Bravely Default 2, et pourquoi est-ce que c'est dans la catégorie bah, c'était marrant?
Alors, parce que c'est un RPG vraiment old school, mais bien foutu en fait. Tout se déroule fluidement, et mine de rien, enfin comme d'hab, dans la série, mais on en est qu'au troisième quoi.
Bravely Default 2 est donc le troisième épisode. Hein,
c'est ça. Ouais.
Comme The Black Chronicle 2. Hein.
Ouais. Le système de job te permet, si tu te grattes un peu la tête, de juste péter le jeu.
Et effectivement, ça faisait partie des choses dont on avait parlé en off dans l'émission, dont je me rappelle. C'est t'as un job ou une combinaison de job en particulier qui peut vraiment casser le jeu si tu sais la jouer.
Ah, mais je pense qu'il y en a plusieurs dans le début du jeu en fonction des zones. Si tu t'adaptes et que tu fais pas la feignasse comme moi, que tu retapes ton équipe en changeant tous les jobs, l'équipement et compagnie, il y a moyen de bien se faciliter certaines zones et de bien défoncer certains boss.
Ouais, mais c'est aussi un petit RPG à l'ancienne. En fait, si vous avez aimé le premier Bravely Default et que vous avez pas vraiment touché, vous y avez joué genre à sa sortie il y a 7 ou 8 ans maintenant, bah dites-vous que ça va être à peu près la même chose.
C'est ça, et si vous le lancez, le petit conseil, c'est de ne vous arrêtez pas à la fin, c'est pas la fin.
Oui, mais oui. C'est assez évident.
Non, ouais. Ça dépend. Hein.
Oui, ça dépend.
Il y a beaucoup d'enfants, tu peux te dire que tu peux raccrocher. Hein, les
oui, non, mais là, c'est pas il est curieux, donc.
Non, et ne vous arrêtez pas à la deuxième fin, c'est pas non plus la fin.
Ah merde, ouais, au bout d'un moment...
Mais le jeu est vraiment cool, ça reste un bon RPG à l'ancienne, mais il faut accepter le fait que il fait pas beaucoup plus que le précédent.
C'est ça.
Un autre jeu, attendez, j'essaie d'en trouver mes petits. Je vais passer la parole à moi-même. Tiens, voilà.
Il se donne la parole à lui-même. Plaisir.
Je me donne la
Quel
parole
bon
à moi-même.
Il va tous nous mute, on va rien comprendre.
Attends, je peux faire ça? Oui.
Putain.
Pourquoi vous m'avez laissé ce genre de pouvoir aussi? Je vais prendre le relais avec juste les deux jeux de c'était bien marrant de l'année. Le premier, c'est Ghost Runner, alors qu'il n'est pas vraiment dans la section backloggerie, parce que il n'est pas vraiment dans les bûches arrière, parce qu'en fait, il est sorti sur Switch cette année. Même si il est sorti en physique sur Switch cette année, il était déjà sorti. Non, il a tardé à sortir, je crois, en physique, mais il est sorti déjà plus tardivement sur Switch que sur les autres supports. Donc Ghost Runner, j'en avais déjà parlé au mois de septembre dans l'émission de retour de vacances, ça a été le jeu des vacances pour moi, même si c'est pas vraiment un jeu très reposant, puisque c'est une espèce de... C'est très compliqué à définir, c'est une espèce de jeu de plateforme action rythmique, dans lequel l'objectif c'est d'essayer de parcourir les niveaux dans le moins de morts possible, mais où tu fais quand même dans les 100 à 200 morts par niveau sans problème. Tu crèves beaucoup, mais voilà, c'est marrant, il y a vraiment de la musique très marrante, il y a des niveaux qui sont très bien foutus, il y a juste l'histoire qui est pas fofolle, et j'avais commencé à refaire un petit peu de speedrun dessus, puisqu'il y a un vrai mode speedrun, il y a un vrai mode de time attack, et je me suis rendu compte que j'avais pas le niveau, donc voilà. Il y a vraiment des trucs où c'est juste très 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 difficile. Mais bon, voilà, Ghost Runner, je continue à le recommander. Il y a une extension qui sort dans pas longtemps, et je suis très 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 tenté de la prendre. Parce que franchement, je me suis vraiment bien éclaté sur ce jeu. Je sais qu'il y a un Ghost Runner 2 aussi qui est dans les cartons actuellement. J'espère vraiment que ça finira par aboutir. Parce que franchement, ouais, bien sympa. Qui fait plaisir. Je vais repasser la main à Mecton pour Road 96.
Ah,
Road 96. Alors, donc tu m'as dit peut-être même que ça pourrait te plaire, même si ça blablate énormément et que c'est un roguelike. Donc c'est quand même...
Voilà, c'est ça. C'est... Comment te le vendre? Est-ce que tu aimais bien les jeux Telltale?
Non.
Ah, ça va être compliqué.
Bah, raté. Est-ce que tu aimais bien les cinématiques de Xenoblade 2?
Non.
Pareil.
Non, alors, j'aime bien le personnage principal de Xenoblade 2 qui sait qu'il y a deux gros arguments. Voilà.
Qui sont cons. Road 96. Putain, faut que j'enchaîne. Donc, c'est un roguelike, entre guillemets. Dans l'idée que en fait tu vas à ta première partie jouer un adolescent qui est dans un pays où tu comprends rapidement que c'est un pays qui est gouverné par un président mais en mode je suis élu pour 15 ans quoi. Qu'une élection va se passer mais que cette élection semble pipoter d'avance Et en gros, dans ce pays, tous les ados cherchent à rejoindre la frontière pour se barrer. Tu comprends assez rapidement aussi que si un ado se fait choper en train d'essayer de fuir, il finit dans une espèce de goulag. Donc il y a vraiment une ambiance un peu pesante. Et le jeu va être découpé par étapes, en fait. À chaque étape, tu vas avoir le choix soit de continuer ta route à pied, en taxi, en bus, soit tu as des événements qui vont te faire aller avancer plus vite vers la frontière. Tu vas régulièrement rencontrer des personnages clés, entre guillemets. Il y en a 7 ou 8, je crois. Et que tu arrives ou pas à passer la frontière, voir que... Enfin, tu n'es pas obligé d'arriver au bout. Tu peux te faire buter avant si vraiment tu fais une rencontre que tu gères mal. Quoi qu'il se passe, en fait, tu vas te réincarner dans la peau d'un deuxième ado qui, lui aussi, va essayer de rejoindre la frontière. Et là où ça devient super intéressant, c'est que toi, joueur, forcément, tu gardes la connaissance de tous les dialogues que tu as eus. Donc, si tu recroises une personne... systématiquement, en fait, quand ta run suivante, elle est légèrement décalée dans le temps par rapport à la première. Donc, l'exemple que j'ai,
un tout petit peu après, c'est ça. Enfin, tu passes le bus d'après, quoi, en gros.
C'est quelques jours, quelques semaines après. Ça dépend de comment le jeu gère sa RNG. Si tu recroises un personnage, en fait, tu vas voir ce qu'il a fait après avoir quitté ton perso précédent. Toi, joueur, tu as des informations sur lui et du coup, tu vas ressentir les dialogues ou les révélations qu'il va te faire un peu différemment. Tu vas commencer à comprendre comment ils s'interconnectent tous ces personnages les uns aux autres. Et là où je pensais que ça pourrait te plaire, c'est un roguelike où il y a vraiment un scénario de fond, de chaque run étant décalé dans le temps. Le nombre de runs n'est pas infini. À un moment, il y a une date butoir sur le calendrier. Et en fonction de tous les choix que tu as fait dans toutes les runs, ta fin est différente.
Oh. D'accord. Ça, c'est alors, pas inintéressant, en tout cas.
J'ai une question, du coup. Le seul gameplay du jeu, c'est de choisir des dialogues, en fait.
Non. Tu as des phases où c'est juste du choix de dialogue, mais quoi qu'il arrive, tu as une caméra libre.
Il faut aussi valider ton ticket de bus. Non, mais c'est important.
Tu déconnes, mais pour l'immersion, c'est intéressant, quoi. Genre, quand t'es dans une cabine téléphonique, t'as le choix d'appeler un taxi... d'appeler un numéro si tu veux dénoncer quelqu'un, voire d'appeler chez toi pour entendre tes parents qui vont te dire certaines choses.
Est-ce que tu veux appeler le grand leader de la nation pour...
Le gameplay dépend, c'est pas que du choix de dialogue. Tu as aussi des phases un peu FPS où il faut explorer pour récupérer hasard du pognon.
C'est très tel, effectivement.
Voilà, de la bouffe ou des clés de bagnole si tu veux te tirer en voiture de là où tu es, un peu d'essence si tu veux... être sûr que ta bagnole va pas caler en plein milieu de nulle part.
Ou brûler l'endroit où tu es. Hein.
Il me semble qu'il y a une séquence comme ça où tu peux faire de la merde. Tu peux... Oui, parce que sans trop vous en dévoiler, en fait, il y a en gros trois grands axes pour changer la fin. Soit tu es en mode je m'en bats les couilles, je veux juste me barrer. Soit tu incites plus ou moins le pays à la révolution. Soit tu incites le pays à faire un vote démocratique.
Alors évidemment, nous ne choisirons pas la troisième option, c'est une question de principe.
La première run que j'ai fait, c'était ça, et la fin était très belle sur ce sujet. Alors par contre, c'est un jeu qui est très très politique. Hein.
Oui, c'est un peu la thématique de la soirée entre ça et Disposition.
C'est ça, voilà, on a
c'est un jeu qui est très 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 politique. En gros, quelles sont les armes d'une population pour déboulonner un dictateur? Il y a de quoi réfléchir.
Oh, il y en a deux ou trois. La fourche, ça marche bien, apparemment.
Moi, je connais un truc, c'est une lame en métal au sommet d'un truc en bois. C'est vachement efficace, on connaît bien en France.
On la connaît bien, celle-là.
Et c'est français.
C'est français, monsieur.
Ah bah voilà. Attends, on parle toujours de Route 96.
Route 96, oui. L'autre aussi, hein, l'instrument aussi, il est français. Hein.
Ah, et la BO défonce.
Ah, tu donnes envie, en tout cas.
C'est genre, en tout cas,
si vous aimez les trucs à la Kaczynski, tout ça, c'est parfait, quoi.
Bah, écoute, même moi qui ne suis pas un grand fan de roguelike et autres, parce que ça, c'est le genre de truc qui a vite tendance à me dégoûter parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas progresser, c'est déjà plus tentant.
Si ça peut te guider, il faut 8 ou 10 runs en fonction de ce que tu fais pour arriver à une fin.
D'accord.
Et quand tu arrives à une fin, t'as bien envie de tout recommencer pour essayer de
d'avoir
le pays
un
dans une autre direction, quoi.
D'accord. On va enchaîner avec Monsieur Zergy, tiens, qui n'a pas beaucoup parlé depuis tout à l'heure, avec Falconir. Alors pareil, c'était bien marrant, tu y as joué quelques heures, apparemment pas grand chose, mais suffisamment pour te faire une petite idée.
Oui. Je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop par où commencer. En fait, dans Falconir, on joue le rôle d'un Alors, à ce que j'ai compris, on joue le rôle d'un soldat qui chevauche un espèce de faucon géant. On travaille pour un... Du moins au début, pour un empire installé, enfin, qui est déjà en place, qui a différents ennemis. Alors, ça va être soit des pirates, soit éventuellement, je pense, par la suite, des royaumes à côté. On évolue dans un open world. Et à ce que j'ai vu, on doit avoir des missions qui suivent une histoire, une trame principale. Et on a aussi, comme on est dans un open world, il y a des petites missions à côté qu'on peut aller pêcher à droite à gauche pour gagner du stuff ou de l'argent. C'est ça.
D'accord. Et on est bien d'accord, c'est du donc c'est du pilotage, il y a du dogfight, il y a des missions de
Oui,
bombardement.
voilà, c'est ça.
Voilà. Donc ça va peut-être plaire aux fans de Rogue Squadron qui est en moi. Ce jeu me tentait beaucoup, je l'ai pas encore acheté parce que j'ai pas eu le temps de jouer à grand-chose en ce
Il y
moment,
est sur
mais
Limited Run. Ah non, peut-être plus.
Il est sorti en magasin, hein. Tu peux le choper sur Just for Games. Enfin, il y en a, il est disponible un peu partout. En fait, il est sorti un peu partout en édition un petit peu limitée, je
Je
crois, mais.
pense que si t'aimes bien les Rogue Squadron, ouais, tu pourrais aimer.
Ouais, bah effectivement, ça me tentait
Ah,
beaucoup.
t'as pas le truc de gestion de l'escouade comme dans Rogue Squadron où tu sais où tu pouvais leur donner des petits ordres.
Oui, t'es tout seul.
Voilà, t'es tout seul. Enfin,
Mais bon,
du moins
après.
pour l'instant.
Oui, après, effectivement, ça peut venir par la suite. Mais c'est vrai que c'était un jeu tentant. Ça, c'est apparemment fait réalisé par une seule personne. Ce qui est quand même assez exceptionnel aussi, parce que là, c'est pas un petit jeu indé en pixel art, hein, c'est un vrai jeu en 3D qui a quand même l'air pas si simple que ça. Donc voilà, c'était tentant. Je suis content qu'on en ait parlé parce que finalement c'est le genre de jeu où tu peux vraiment facilement passer à côté. Finalement, ça paye pas de mine.
Falconir, vous dites?
Oui.
Je note, je note.
Mais moi aussi, je vais noter. Je pense qu'en finissant l'émission, je vais peut-être aller acheter 2-3 bricoles.
Il va faire ses courses.
Bah, j'en profite pour lâcher un petit bon plan comme ça qui est valable, je crois,
Il y a
jusqu'à
Noël là.
demain soir. Il y a moins 10% sur la boutique Just for Games, sur toute la boutique. Donc, bon, c'est pas forcément toujours les meilleurs prix, faut quand même comparer avec ailleurs, mais globalement, Just for Games, c'est des gens bien, donc voilà, si vous pouvez leur lâcher un bifton, c'est pas forcément plus idiot. Et 10%, c'est toujours bon à prendre.
Ils ont un Saint-Ouen Just for Game?
Il me semble, ouais. Donc, effectivement, faut en profiter. On va finir avec. Alors, bon, Mecton, je te l'accorde celle-là, mais vraiment, Monster Hunter Rise.
Ouais, bah,
Mais
c'est un très
vite!
bon. C'est un très bon épisode, c'est du Monster Hunter, si vous aimez, c'est très très cool. Next!
Next, je vais enchaîner avec Little Nightmares 2, on y a dédié tout un dojo bar, donc je ne vais pas me répéter. Un très bon jeu de plateforme, aventure, horreur, avec une fin qui personnellement me laisse encore particulièrement. Ça fait encore des frissons dans le dos, tellement c'était très 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 bon. Je ne sais pas si, Mecton, tu as eu l'occasion de finir le 1 ou le 2, entre
Non,
nous.
alors le 1, je l'ai fini. Alors oui,
Ah!
la fin m'a mis une claque-claque.
Tu l'as vu venir ou pas?
Je l'ai
Sans
pas
le
vu venir.
révéler, est-ce que tu l'as
Je
vu
l'ai
venir?
pas vu
On est
venir. Je
bien
l'ai pas vu
d'accord, elle n'était
venir.
pas évidente à voir venir.
Ouais, je l'ai pas vu venir du tout. Et c'est vrai qu'en y repensant, je me dis putain, il y avait des indices tout le long, quoi.
Ah, c'est le genre de truc où ça te donne envie de faire presque une deuxième run pour aller
C'est
voir un peu
ça.
des
Et alors
indices en
après, ce qui
question.
me bloque, j'ai lancé le DLC, mais ce qui me bloque, c'est que sur ce premier épisode, tu m'as dit sur le deuxième, c'est largement corrigé. Sur ce premier épisode, à chaque fois que tu claques, t'as le temps de te boire une bière avant que le chargement finisse.
Voilà, sur le deuxième épisode, c'est corrigé, mais même sur le premier, ils avaient déjà bien amélioré. Il y avait eu un patch Day One qui avait largement, comment dire,
Améliorer le temps de
sablé le temps de chargement. Donc déjà, t'as la version améliorée. Mais c'est vrai que c'est un peu lourd. Bref, on va finir avec un dernier jeu, Monsieur Antix, dans la catégorie C'était bien marrant, hein. IS9.
IS9. À la base, je voulais pas le mettre parce que je pensais qu'il était sorti que sur PS4, mais je me suis souvenu qu'il y a une version Switch qui est sortie cet été.
Tout à fait, c'est
Ah, elle est
sorti cet
sortie?
été.
Alors, je ne sais pas.
J'hésite à me le prendre parce que j'ai bien aimé le 8, même si je l'ai pas fini.
C'est dans la même veine que le 8. À part que bah, cette fois, au lieu d'être sur une île paumée, on est dans une ville prison, dans ce qui est l'équivalent du royaume de France dans l'univers de His, à part le duc.
La France, monsieur.
La France post-guerre de 100 ans.
Oui,
C'est un truc.
donc il n'y a pas encore cet instrument tranchant avec une corde, mais ça va pas tarder.
Non,
Ah,
mais t'as.
mais le truc qui sert à.
C'est une cité prison, et le gimmick de cet épisode, et que je trouve vraiment réussi, c'est qu'en fait, alors les héros vont se retrouver à obtenir des pouvoirs un petit peu genre mi-humain, mi-monstre, pouvoir voler, grimper sur les murs, se téléporter. Et en fait, c'est super chouette parce que l'idée, c'est que le lieu principal, c'est une ville. Mais du coup, tu vas pouvoir grimper sur tous les sur tous les immeubles de la ville. Tu vas pouvoir voler d'un quartier à l'autre. Ça marche super bien. Après, niveau gameplay, c'est comme Issuite. Globalement, faut timer les esquives. Les boss vont t'exploser les barres de vie en quelques coups si tu joues en autre chose que normal. Ce que j'ai fait. C'est dur. C'était bien. Et il y a des quêtes annexes à réussir. Après, on reste sur un truc assez classique, mais je me suis bien éclaté. Et ça reste du Is avec donc un gameplay nerveux et des musiques où les guitares, elles pètent dans tous les sens tout le temps, et c'est génial.
Écoute, c'est très tentant. Alors moi, Issuite, j'avais commencé, mais j'avais pas accroché. Mais bon, après, c'est pas...
je pense que t'as pas accroché à Issuite, t'accrocheras pas à Is9 non plus. Parce que c'est globalement la même chose. Juste dans un setting différent.
Okay. Je tente très bien quand même, parce que j'ai pas beaucoup insisté, hein. J'ai vraiment fait très très peu, et c'est vrai que je me suis pas plus investi que ça.
Disons que le gros défaut de Issuite pour moi, c'est qu'il est sorti la même année que Breath of the Wild en Europe. Et que du coup, quand tu passes de Breath of the Wild monde ouvert à Issuite avec ses petites zones sur l'île, t'es un peu genre, ah ouais, je suis déçu là.
Alors, je vais réduire un tout petit peu la catégorie backloggerie, parce qu'à l'origine, on avait beaucoup de trucs. Donc, je vais vous autoriser à parler de deux jeux dans la catégorie backlog, c'est-à-dire les trucs qui ne sont pas sortis en 2021, mais auxquels vous avez joué en 2021. Et puis après, il y a les nouveaux backlogs, c'est-à-dire les trucs que vous allez rajouter en 2021, que vous ne finirez pas en 2021.
On va crever.
Voilà, donc on va essayer de passer soit très 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 vite, soit on réduit un petit peu, c'est comme vous le sentez. Donc,
moi, je pense que je vais me contenter d'un jeu parce que je vais parler des autres.
Effectivement, vas-y Antix, tu
peux. Donc moi je vais rester sur Outer Wilds, je pense que j'ai déjà un peu parlé en début d'année, un super jeu d'énigmes dans l'espace, avec une mécanique de retour dans le temps à la Majora's Mask, donc avec des événements événements qui s'adaptent en fonction du temps. Le timer, je vous recommande, je crois qu'il s'est sorti sur Switch, mais honnêtement faites-le plutôt sur PC.
Par contre oui, je confirme la recommandation, la version Switch est un peu légère.
Il y a un DLC qui est disponible, j'ai eu des retours positifs comme négatifs, moi je l'ai pas testé, je peux pas dire ce qu'il vaut, mais le jeu de base est vraiment très très bien. Mettez-vous, je dis, 2-3 jours de suite, allez-y comme des bourrins pendant les vacances, pour pas perdre le fil, et ça devrait être vachement bien, je vous recommande vraiment.
Monsieur Mecton nous avait fait une liste, alors dantesque, hein, tu vas mettre tout ça dans ton backlog. Non, il y avait Rocky qui était...
Non, Rocky c'est celui que j'ai dépilé, c'était une super bonne surprise. C'est un point and click à déplacement libre, on va dire. La grosse originalité, c'est qu'il est basé sur le folklore scandinave. Et il y a un fil rouge où tu joues une gamine qui voit son petit frère se faire enlever par une bestiole bizarre. Ça, c'est le point de départ de l'aventure qui va en fait faire grandir le personnage. L'histoire est vraiment vraiment cool, la fin est très touchante, et c'est du très très bon point and click où chaque énigme est imbriquée dans une autre, et du coup ça a été un vrai plaisir en fait de délier le puzzle, de voir comment les mecs ont fait en sorte que ça soit un plat de spaghetti, mais te donner suffisamment de clés pour que tu saches toujours exactement quoi faire et comment démêler tous les nœuds. C'était très très cool.
Je veux bien te croire. Alors après, tu as rajouté plein de trucs, donc Shin Megami Tensei 5, tu ne le finiras jamais.
Non, mais voilà, je l'ai ajouté dans le backlog.
Alors Danganronpa, qui était le machin avec l'ours bizarre que j'ai absolument rien compris, du coup j'ai laissé béton.
Alors Phoenix Wright Battle Royale, pareil, c'est rentré dans le backlog, on en parlera dans 3 ans.
Donc on en reparlera pour les GOTY 2022. Life is Strange True Colors, alors la version physique sort au mois de janvier, donc c'est techniquement ça ne compte pas.
Ça ne compte pas, mais la version des maths est sortie. J'ai fait les deux premiers de Life is Strange, c'était excellent, et celui-là, donc a priori, est très bon aussi, et paraît-il que la version Switch tourne au poil, on verra.
Shovel Knight Pocket Dungeon, alors celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler ces derniers temps, apparemment c'est très 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 bon.
Et bien c'est sorti, et ben on va rajouter ça dans le backlog, et puis on verra.
Voilà.
Ah oui, j'ai eu de super retours, en plus c'est un puzzle match 3 dans l'univers de Shovel Knight, donc ça me donne envie aussi. Hein.
C'est vrai que ça a l'air vraiment sympa, je dois bien reconnaître. De mon côté, j'avais noté deux jeux, il y a Doom 3 que je n'avais pas fait à l'époque sur PC parce que voilà. Mon PC n'était pas capable de le faire tourner, parce que Doom 3 c'était beaucoup trop pour ma pauvre petite GeForce 2MX qui souffrotait à péniblement 5 FPS quand c'était éclairé, donc c'était même pas la peine. Et donc là, je refais un petit bout sur Switch. Alors, c'est toujours Panic Button qui est aux commandes. Donc, en général, c'est plutôt de qualité. J'ai quand même réussi à faire planter le jeu deux fois.
Oh.
Après, j'ai vraiment fait de la merde. Hein. quand même le dire.
Mais même.
Voilà, mais même, c'est un peu bizarre. C'est très bizarre, Doom 3. C'est très, 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 très bizarre. Je dois bien
vous
avouer.
Pour toi, c'est un vrai Doom ou pas ?
Non.
C'est d'accord. Hein.
C'est John Carmack sans John Romero. Hein.
C'est presque ça. C'est-à-dire, c'est techniquement hyper impressionnant. C'est-à-dire, même aujourd'hui, je trouve que le jeu est assez impressionnant. Alors, effectivement, son seul vrai problème, c'est le recyclage de textures. C'est-à-dire, t'es toujours... Il y a un moment où t'arrives en enfer, mais même les enfers ressemblent beaucoup à la base martienne. Donc, c'est un peu emmerdant. Je trouve que de ce point de vue-là, Doom 2016 avait vraiment réussi à beaucoup plus diversifier les décors, même s'il y avait un côté un peu répétitif avec les laboratoires, les entrepôts et ainsi de suite. Là, c'est vraiment... Bon, c'est particulier, je trouve que... Ouais,
Je pensais au truc torche-flingue, putain, mais scotch là sur ton flingue, la torche.
Ouais, c'est ça, mais après, c'est un choix de game design aussi. Hein.
Le futur où le scotch n'existe pas.
C'est ça. Mais après, enfin, honnêtement, c'est un choix de game design. Hein. Faut quand même se le dire aussi.
Ah, mais du coup, ouais, c'est pour ça que je te demandais, parce que pour moi, ça ralentit énormément le rythme frénétique d'un Doom.
Ah, mais t'as pas de rythme frénétique. T'es dans un jeu dans lequel tu fais une save state toutes les 25 secondes et tu nettoies les couloirs au fur et à mesure. Et en fait, c'est un Resident Evil à la première personne et puis c'est à peu près tout, quoi.
C'est ça.
Sans les énigmes. Si des fois, il faut que t'appuies sur un interrupteur. Et le deuxième jeu auquel je n'avais pas joué encore et qui m'a bien fait marrer, j'ai pas forcément énormément joué, mais j'ai fait quand même pas mal de parties, c'est Zombie Army Trilogy. Alors c'est un mélange entre... Enfin c'est une espèce de Left 4 Dead.
Mais
dans le moteur de Sniper Elite 4. Donc en fait tu te trimbales, alors c'est un jeu où vous pouvez y jouer en solo. Je ne vous le recommande pas en solo, c'est assez chiant en fait. Enfin puis en plus c'est vraiment très difficile, c'est assez peu d'intérêt je trouve. Même avec un niveau de difficulté un peu en dessous, on n'en profite pas vraiment. Par contre, à plusieurs online, il y a encore une petite communauté qui joue avec des gens qui ont un petit niveau, donc c'est sympa parce qu'on peut vraiment se laisser un peu porter dans la game. Donc l'idée, c'est que tu te retrouves avec, comme dans Sniper Elite, t'as un flingue, une petite mitraillette et un sniper, et il faut te débrouiller pour arriver au bout du niveau, pour arriver dans une espèce de safe room. Et une fois que t'es dans la safe room, et ben, tu passes à la safe room suivante, et à la fin, t'as une espèce de gros boss, qui généralement est un nazi zombie, avec une tronçonneuse dans une main et une Gatling dans l'autre. Voilà.
Normal.
Méca Hitler nazi, en fait.
C'est presque ça, et c'est très 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 second degré. Et t'as plein de choses intéressantes avec des ennemis beaucoup plus diversifiés d'ailleurs que dans un Left 4 Dead, parce que finalement t'as pas que des espèces d'infectés spéciaux, t'as vraiment des ennemis qu'il faut battre d'une certaine manière, qu'il faut arriver à regrouper, qu'il faut arriver à grenader, qu'il faut arriver à... Voilà. Franchement, c'est plutôt bien foutu. J'étais vraiment surpris et je me suis bien éclaté sur les quelques parties que j'ai pu faire. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause musicale.
Alors moi, en backlog, j'avais...
Pardon, effectivement, excuse-moi.
J'avais Blaster Master 02, qui est sorti, je crois, l'an dernier.
Qui est sorti l'an dernier.
Et que j'ai commencé, c'est bien, c'est un peu dans la veine du premier. Un peu moins bien, je trouve, mais bon, pour l'instant.
C'est un peu bizarre leur espèce de carte entre les par rapport au premier.
Ouais, voilà, c'était obligé de... T'as des planètes, toi t'as vraiment rien à foutre, et puis d'autres t'as beaucoup plus de trucs à chercher, donc c'est un peu inégal. Mais ça va, tu restes quand même à peu près dans la veine du premier. Et sinon, l'autre jeu que j'avais, c'était... qui est sorti aussi, je crois, l'an dernier, qui était Monster World 4, dont j'avais déjà parlé. Qui est juste un remake d'un vieux Mega Drive.
Oui, mais des fois c'est bien aussi. Ça fait partie des trucs où effectivement ça peut faire plaisir de temps en temps de faire un remake un peu sympa. Voilà, je suis désolé Zergid, j'étais complètement oublié dans le truc. On va faire une petite pause musicale avant d'attaquer la partie, la dernière partie qui va être la partie business qui va aller assez vite. Et la partie Madame Irma, vous allez voir que ça va être marrant. Bref, on va s'écouter le thème de Celestbourg de Zelda Skyward Sword, qui est aussi sorti cette année. C'est Méduse qui m'avait rappelé ça, gentiment. Voilà, donc ça dure un tout petit peu plus de 3 minutes et on se retrouve tout de suite après.
C'est le grand hit. Il ressemble à un 8.
Et nous voilà de retour.
Tour.
Ça ne se verra pas du tout au montage.
Pardon, le best of off.
On s'est un peu perdu dans le... Voilà, c'est un petit peu perdu.
Ils avaient leur course.
C'est un peu ça. Donc, dans les nouvelles business de l'année, parce que c'est pas pour dire, mais il y a quand même quelques nouvelles business qu'on n'a pas trop évoquées, puisque c'est fait partie du bilan de l'année, en fait, mine de rien. Moi, j'ai noté surtout beaucoup de rachats. Alors, on a évidemment Microsoft qui a racheté Bethesda.
Ouais, Microsoft qui a racheté tout le monde. Hein.
Oui, enfin, ils ont surtout racheté Bethesda.
Ah, c'était pas l'année dernière ?
Ouais.
Non, c'était au début de cette année.
Putain.
C'est en janvier, quelque chose comme ça, janvier-février.
Oui, il l'avait annoncé l'an dernier, je crois.
Par contre, il l'avait annoncé l'an dernier, oui, mais ça a été consommé.
Ça reste un gros rachat.
Ils ont racheté qui d'autre ? Double Fine Games, je crois, un truc comme ça ?
Ça fait longtemps qu'ils ont racheté ça.
Ah.
Ça fait 3-4 ans que ça fait un Double Fine.
Il y a peut-être d'autres trucs qu'ils ont rachetés. On a noté aussi alors Lucasfilms qui a décidé de confier les licences LucasArts à quelqu'un d'autre qu'Electronic Arts. Étonnamment.
Très bonne idée.
Alors attends, il n'y a pas que Ubi du coup, parce qu'il y a aussi Quantic Dream.
Il n'y a pas que Ubi, il y a aussi Quantic Dream, oui.
Et alors Quantic Dream,
ça va être...
Ça promet d'être...
Oh putain.
T'avais un article de Rock Paper Shotgun où il disait alors le Star Wars de Quantic Dream sera probablement mauvais. Hein. Faites pas trop d'espoir.
C'est ça le
titre, tu vois.
Ah non, mais enfin.
Le mec était tellement blasé par Détroit que.
Mais je suis quand même assez content que finalement Lucasfilm, qui maintenant appartient à Disney,
ouais.
Comme Disney, commence à plutôt négocier avec des gros studios plutôt que d'essayer de faire des trucs en interne, ça, c'est casse-gueule comme stratégie, mais je pense que à long terme, si tu gères ça correctement, si tu gères tes assets correctement, ça peut être très payant pour tout le monde.
Et puis surtout réparti, il file pas tout au même mec.
C'est ça, pas tout dans le même panier, pas tout en interne. Tu peux très bien garder un peu de maîtrise en interne si t'as besoin, tu peux très bien faire un bout de game design en interne,
non,
je pense que c'est plus malin pour ces licences-là.
Par contre, derrière, ils sont au cul des mecs en leur disant « alors moi je veux ça, pas ça ».
Bah, d'une certaine manière, t'es en mode client-fournisseur, et c'est, quand tu dois gérer des dérivés, des séries dérivées de licences, c'est peut-être le meilleur moyen de le faire, hein. Tu gardes le contrôle artistique, et tu t'encombres pas avec le reste. Voilà.
Ouais, après, on sait qu'ils sont très proches de leur licence, donc il y a de fortes chances que la liberté créative des développeurs soit un peu bridée. Mais...
Après, c'est toujours pareil, hein, c'est pas parce que... D'ailleurs, pour la liberté créative, il y en a un autre dans le lot. De temps en temps, la liberté créative, elle peut quand même s'exprimer malgré tout, dans des endroits inattendus.
Bien sûr, bien sûr.
Attention, trop de liberté créative, ça peut donner de Mighty Number One, enfin du...
Mighty Number Nine.
De les dire du Daikatana, mais...
Moi j'aurais dit n'importe quel jeu de Kojima.
Ouais.
Les films.
C'est pas gentil. Autre nouvelle, c'est arrivé en janvier, c'est Nintendo qui rachète Next Level Games.
Donc logique.
Next Level Games, oui c'est assez logique, c'est une collaboration de long terme, puisqu'il y a eu Mario Striker Charged.
Il y a Luigi's Mansion.
Luigi's Mansion 3.
Luigi's Mansion 2. Fédération de Force.
Ah oui. That one.
Vite, Punch-Out.
Punch-Out, tout à fait.
On parlait là il y a deux semaines.
Effectivement, donc t'as quand même une collaboration de longue date qui fait que Nintendo, tu sens envie de sécuriser studio, je trouve ça très bien.
De ce que j'avais compris à l'époque, c'était pas juste pour des envies de vraiment rachat et compagnie, parce que ça se passe bien, c'est aussi parce que apparemment les proprios cherchaient à vendre.
Bah, fallait peut-être pas laisser passer l'occasion de récupérer un studio plus que correct.
Soyons tout à fait honnêtes, ils ont très bien fait de le garder, parce que c'est un bon studio d'animateur, qui est parfait pour le style de Nintendo. Et qu'on prouvait qu'ils savaient faire des trucs sympas quand on laisse un peu de liberté. Hein, Mario Striker ?
Ouais.
Oh oui.
Mario Foot.
Mais c'est ça, je pense que c'est une bonne idée. Quand t'as un studio avec lequel ça marche bien et que les propriétaires cherchent à s'en débarrasser, bah effectivement, je pense qu'il faut pas hésiter à mettre la main au portefeuille, surtout quand tu t'appelles Nintendo, que le portefeuille tu l'as, quoi.
C'est ce qu'a fait Sony aussi, hein.
Alors Sony, justement, ils ont racheté 3 studios cette année : Fire Sprites, Housemarque et Nixxas Software.
Alors,
donc c'est pareil, tout le monde avance ses billes, hein.
Je sais plus lequel des 3, mais c'est celui qui a fait Returnal, la grosse exclue PS5
de Fire Sprite.
Oui, c'est possible.
Il me semble.
Mais qui est un partenaire de longue date de Sony, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils font des exclus pour leur console.
Donc effectivement, là c'est pareil, tu rachètes tes clients, mais en fait tu rachètes tes fournisseurs qui sont les bons et ceux qui travaillent de toute façon depuis longtemps avec toi. Moi, c'est le genre de rapprochement qui me paraît aussi parfaitement logique.
Bah, ce qui est logique, parce que c'est aussi plus facile de les intégrer dans
tes
studios collaborateurs et ton écosystème, parce qu'ils y sont déjà, en fait.
Exactement, puis ça peut permettre aussi de créer des transversalités, c'est-à-dire de te dire finalement, tu as ces trois studios-là, tu connais les forces et les faiblesses de chacun, si tu arrives à répartir les projets correctement, il y a peut-être moyen que les faiblesses de l'un soient compensées par les forces de l'autre.
Et puis pour les studios, mine de rien, c'est aussi une sécurité, parce que tu sais que si tu as un jeu qui te plante, tu as quelqu'un qui te soutient derrière
pour avoir un ou deux autres essais. Sauf quand tu t'appelles Electronic Arts, en général, quand le studio se plante, tu le fermes.
Oui, non mais voilà.
Wacky Pognon. On a eu aussi Netflix qui va se lancer dans le jeu vidéo.
Alors il paraît que c'est fait.
Pas trop ce que ça va donner. Alors ils ont racheté un studio il y a très longtemps.
Non, mais il paraît que c'est sorti.
C'est déjà mobile. Hein. Ou non, plus sur Netflix, je sais plus.
Mais tout le monde s'en branle.
Tout le monde s'en branle, bah, c'était à peu près prévu, non ? Bon. Et donc on a Actipognon qui est bien parti pour saigner du cul en 2022 parce que bah, ils ont émaillé toute l'année 2021, on en a parlé très régulièrement. Je pense que Bobby Kotick commence un petit peu à être sur un siège éjectable, en tout cas. Alors, ça ne sent pas très très bon pour lui.
Là actuellement, y avait, la dernière fois qu'on avait parlé, il y avait genre 10 ou 12% des effectifs qui voulaient dégager Bobby Kotick et ça parle de faire un syndicat... interne à Activision.
Pas content.
Voilà, ce qui est un truc qui est... En France, on est habitué aux syndicats, mais il faut se dire qu'aux États-Unis, les syndicats dans le jeu vidéo, c'est rare.
Les syndicats tout court, c'est rare.
Oui, alors, en plus, avec des entreprises comme Amazon qui font du lobbying pour justement empêcher que les salariés fassent ce syndic.
Il y a une très grosse poussée syndicale en ce moment aux États-Unis, c'est assez intéressant à observer depuis l'Europe.
Ils commencent à se rendre compte que, bah, ils se font un peu niquer, quoi.
Mais c'est surtout que tant qu'il y avait un taux d'inflation qui était, on va dire, aux alentours de 2%, tout le monde s'en foutait un peu. Là, aux États-Unis, ils sont à 7% presque cette année. Donc là, c'est pas tout à fait la même sauce. Hein. Bref, donc voilà, Actipognon a émaillé l'année. Je m'attends effectivement à ce qu'il saigne un peu du cul en 2022, d'autant plus que là, il y a quand même pas mal de gens qui commencent à faire la gueule. Alors, les Video Game Awards n'avaient pas officiellement boycotté Actipognon, mais ils ont dit qu'ils voilà, ils commençaient aussi à en avoir un petit peu marre.
Oui, apparemment, ça a été genre, c'était message générique en mode langue de bois, parce que Activision, ils sont au bord
Ils sont au bord, donc c'est un peu compliqué, mais apparemment, d'un point de vue réception publique, c'était compliqué de ne rien dire et c'était compliqué de les mettre en avant. Donc...
Bah, en fait, ils sont... quand le mec il a dit on n'en parlera pas là. Jeffrey, il a dit bah on parlera pas du sujet parce que c'est pas le sujet. Il s'en a à peu près plein la gueule. Et le mec, c'est un communicant, c'est son taf. Donc en fait, il a compris qu'il fallait quand même qu'il dise quelque chose et qu'il fasse quelque chose, quoi. Parce qu'il voulait pas se faire boycotter.
Tout à fait. Donc ça commence à puer. C'est une bonne nouvelle.
Mais c'est intéressant Activision parce que ça fait quand même des années que on sait que même leurs pratiques en termes de gestion de personnel sont pas ouf. Hein. Il y a un ou deux ans, ils ont fait des chiffres records, mais ils ont décidé de dégager une partie de leur effectif. Apparemment, c'est reparti cette année. Il y a aussi eu dernièrement sur Gamekult, je vous recommande de le lire, ou au moins d'écouter l'émission qui en parle, un article sur comment la fermeture, enfin en tout cas le licenciement, le plan de sauvegarde de l'emploi, pardon, au sein de Blizzard France a eu lieu et a. Et apparemment,
c'est génial. L'article
est génial. La façon dont ça a été fait, c'est... En gros, les gars, ils sont passés de... Nous, on est une grande famille chez Blizzard. On peut contacter directement le PDG aux États-Unis à... Bah, de plus en plus, ça divise, ça ferme, ça communique mal. La gestion des licenciements a été horrible parce qu'ils n'arrivaient pas à contacter les dirigeants qui en avaient rien à foutre. Donc, je recommande la lecture.
Effectivement,
c'est assez édifiant.
C'est assez glaçant et je comprends pourquoi Mark Morhaime m'a claqué la porte.
Il y a pas mal de gens qui ont claqué la porte, alors, ou alors on leur a fait claquer la porte, faut quand même le dire aussi.
Peut-être.
Mais ce serait très étonnant qu'ils arrivent à passer la tempête sans rien faire. Il y a un moment où il va falloir qu'il y ait du changement. Je dis pas que ça va être un changement radical, je dis pas que ça va devenir la boîte de l'année avec Kirby à sa tête l'année prochaine, mais il va obligatoirement y avoir des têtes qui vont tomber.
Surtout qu'en plus, c'est l'année où je crois que le Call of Duty annuel, il est
un peu planté.
Un peu planté. Donc c'est un peu calme en ce moment.
Voilà, on va passer au Madame Irma. Alors j'ai réécouté vos Madame Irma de l'année dernière.
Chier.
Donc je vous annonce tout de suite que vous avez eu tous tout faux.
Ah.
Sauf Zergy.
Oh,
ah. Ah.
Retrouvez-moi bientôt dans ma roulotte.
Alors, Antix nous avait prédit un Xenoblade Chronicle X sur Switch. Perdu. Voilà, on va être
pourtant,
très clair.
C'est à peu près le dernier hein, qui reste.
C'est à peu près le dernier qui reste, mais c'est perdu quand même. Antix nous avait aussi annoncé Masterchef Philippe Etchebest dans Smash Bros. Perdu. Voilà, c'est clairement perdu. Mecton nous avait prédit le retour du Miiverse. Perdu. Ouais.
Ça y avait assez peu de chance.
Alors attends, non, alors Mecton avait aussi un truc juste, le Game & Watch Zelda.
Sérieux ?
Ah, c'est ça ? C'était vrai.
Tu avais dit le Game & Watch Zelda, donc bien joué. Tu avais aussi dit Zelda The 3D Collection, perdu.
Perdu.
On a juste eu le mauvais.
alors évidemment, comme d'habitude, on avait eu le Doc Pro.
Ouais.
Ah, si, Mecton, ah, donc si perdu. On veut, ah, à peu près.
Oui.
Semi-perdu.
Semi-perdu, ouais. On avait aussi le Game Boy Mini. Donc perdu, clairement, Game Boy Mini,
si,
c'est pas pour maintenant.
L'a fait.
Oui, Analog l'a fait avec le Analog Pocket.
Oui, apparemment, ça part mal dessus. Hein. Ouais, c'est, je retrouve.
Ça, voilà. On nous avait dit, oui, effectivement, le menu des paramètres de Metroid Prime 4.
Perdu, ça aussi, moi. Wow.
Perdu, ça aussi, ça, c'est chaud.
On avait Metroid 5. Je pense qu'on y a gagné.
Hein. Je pense qu'on y a gagné, effectivement. Moi, j'avais prédit la New Switch Pro Series X avec Dante de la série Devil May Cry and Knuckles. Donc perdu.
Ah, Knuckles, c'est dans Sonic 2, le film.
Je m'étais dit, pourquoi pas un Kid Icarus, perdu. Voilà, comme ça, on est bien. Zerki nous avait prédit Sonic le film 2, gagné.
Ah, en même temps, le premier avait bien marché, du coup, tu le disais, pourquoi pas.
Ouais, mais en même temps, est-ce que le premier était vraiment artistiquement intéressant? Je dirais que c'est discutable. Voilà, bref. Et donc, on a eu Zerki nous avait dit un remake de Metroid Prime Trilogy, ce qui est vrai, et nous paraissait potentiellement réaliste l'année dernière, mais perdu.
Ouais, voilà. C'est une rumeur encore qui traîne, hein.
Alors, on va commencer dans l'ordre inverse. Donc, Zergy, prédiction 2022.
Ah, j'en ai aucune. Franchement, oh, là, je sais pas.
Même pas une tentative.
Non, rien. Là, j'ai
un
rien qui
poster
me en tête.
De Bobby Kotick à poil dans ta chambre.
Non, on va éviter.
Mais qui
allez,
pas
attends, on peut tenter éventuellement Bobby Kotick qui parle d'Activision.
Ah.
Si ça continue à être la merde, il va peut-être être poussé dehors.
Alors je te promets un truc, si c'est le cas, on débouche le champagne. Pour de vrai. Parce que franchement, ça va.
Oui, on va pas le pleurer.
Ah non, ça clairement pas. Hein. Je vais pas plaindre un connard comme ça. Mecton, une petite prévision pour l'année prochaine.
Ah, c'est dur. Bon, je tente.
Covid 22. Est-ce que quelqu'un va finir par résoudre ce ticket Jira?
Je tente, mais ça, c'est parce que j'ai
après
très, très
la faille Log4j.
Je tente un Punch-Out 2. Je tente un Strikers.
Strikers,
ça va être
chaud.
Strikers, ça va être chaud.
Ou alors, design des persos. Et là, ça passerait.
Ouais, peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que je voulais tenter d'autre?
Donc tu tentes un Striker 2, un Punch-Out 2?
Je tente un Punch-Out 2, je tente un F-Zero Collection, je suis un dingue.
Oh putain, t'es un
gars vraiment un dingue.
F-Zero Trilogy?
Ouais.
De trilogie de quoi?
De définitive édition, avec tout remappé par une IA.
Remaster Series X avec Dante de la série Devil May Cry and Knuckles.
Je suis un dingue. Attends, j'avais un autre truc en tête, mais ça me revient.
T'as une dinguerie là.
Ouais,
une autre dinguerie comme ça.
J'avais une dinguerie, mais tellement grosse qu'elle m'est sortie de la tête. Bouge pas. Je me gratte, je reviendrai.
Ice Climbers Trilogy. Attends, il y a une Je dis que ça se tente. Antique,
non,
tu
oui,
me...
si. C'est un Ice Climbers, mais 99. Ça pourrait être rigolo.
Ah oui, ça pourrait être très marrant ça. Voilà. Ok. Pas de problème. Monsieur Antix, donc une prévision 2022.
J'ai petit bras, hein, je vais prévoir un nouveau jeu de Monolith Software. Putain, petit bras. Hein.
T'as pas de slip, quoi.
Pas de slip. Après, si tu veux une prédiction sur God, moi j'en ai une pour toi. Hein. On va voir Metroid Prime 4.
C'est le running gag.
Non, mais à un moment,
je crois que c'est le running gag ultime. Non, mais à un moment, on finira par avoir raison. Hein. Et là, on pourra dire, on vous l'avait bien dit.
C'est ça.
Alors, à titre personnel, comme tous les futurologues, je suis très mauvais en prévision, surtout quand elle concerne l'avenir. Je vais dire, honnêtement, je sais pas. Je sais pas trop.
Ah voilà, et ça me traite de petite bite, hein. Ah, bravo.
Non, j'avais très 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 envie d'avoir un Kid Icarus l'an dernier, je pense que c'est mal parti. Je Paris va bien, effectivement, sur un portage de Xenoblade Chronicle X, parce qu'il va bien y avoir un moment où le back catalogue va plus suffire.
En même temps, le remake du premier, il est sorti quand du...
2000.
L'année dernière.
Ouais, c'est ouais. Ça, ils avaient peut-être pas les sortir à un an d'intervalle.
Ouais, mais du coup, ça me paraît...
Ouais, c'est le temps de faire le premier.
Ouais, c'est un peu ça.
Ça me revient, je rajoute un Layton Collection.
Ah!
Ouais, ce serait déconnant.
Ça, je dis pourquoi pas, ce serait pas déconnant. Je verrais bien dans la série Back Catalog, puisqu'on a eu un Quake remake, je verrais bien un Quake 2 remake, voire même un Quake 3 remake.
En fait, on est en train de prévoir que des collections et des remakes, là, c'est un peu décevant.
J'attends qu'on me l'envoie, mon Quake, là. Je pense que je vais devoir retourner auprès Saint-Gervais aller le chercher.
Ben voilà.
C'est de la merde.
Ah bah ouais, mais ça... Ah, tu peux changer... Ah, si c'est du Limited Run, tu peux changer l'adresse d'expédition.
Ah bah, j'ai pas réussi. Bon bah, je verrai.
Mais faut que tu contactes le helpdesk, mais ça se fait.
Ouais,
ou
pirate.
Ah, ok, d'accord.
Quelques semaines avant l'expédition, ils envoient un mail qui te demande si t'habites toujours au même endroit.
Donc, surtout quand c'est les trucs longs. Bref, donc effectivement, je verrais bien un Quake 2, Quake 3 collection. Parce que j'ai l'impression que Bethesda est en train de racler les fonds de catalogue, tout ça. Je sais qu'il y a un Ghost Runner 2, donc je prends pas un gros risque là-dessus. Je me dis que peut-être qu'un Breath of the Wild 2, ce serait possible. C'est autant un Metroid Prime 4.
En 2020, bah, c'est à peu près ce qu'ils avaient annoncé. Hein,
on a vu plus de choses de Breath of the Wild 2 que de Metroid Prime 4 pour l'instant. Donc,
C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être plus crédible que ça sorte l'année prochaine. Je le verrais bien, genre fin 2022, pour donner le dernier petit coup de rein sur Switch avant de passer à la suite, avant de passer à la machine suivante.
D'ailleurs, dans les prévisions, les prévisions d'Asus, moi j'ai un Pikmin Musso pour toi.
Pikmin Musso, moi ça me ferait voyager. Hein. En vrai, ça me fait triper. Enfin, vous rigolez, mais il y a des jeux comme ça auxquels je suis capable de jouer simplement parce que ça me fait crever de rire que le concept soit aussi merdique.
Ah bah là.
Le Zelda Musso au départ, c'était ça. Hein. Donc voilà, moi je dis Pikmin Musso, j'y crois. Je sais pas vraiment ce qu'on pourrait prédire d'autre. Hein. C'est vrai qu'on a pas eu grand chose.
En gros, dinguerie, il y a quoi comme studio qui branle rien en ce moment? Enfin, qui branle rien. Donc bah, je sais pas ce qu'ils font. Quoi.
Je trouve qu'Ubisoft fout pas grand chose en ce moment. Je les trouve mous en ce moment. Donc je les verrais bien tenter un truc. Comment dire, le... Merde, comment ça s'appelait là?
Watch Dog 3.
Phoenix Rising. Je les verrais bien faire un Phoenix Rising 2.
Pas comment a marché le premier.
Je suis pas sûr qu'il ait marché, mais comme d'habitude avec Ubisoft, en fait, le premier, c'est jamais le meilleur. C'est en général aux deux qu'ils arrivent à bien finir la formule. Donc je les verrais bien tenter un truc comme ça.
Non, mais si, là, eux, ils vont faire une Assassin's Creed 2 Collection.
Pas déjà fait, ça?
C'est pas déjà fait, ouais.
Si, déjà fait, mais sur Switch.
Ah!
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 Ah! Non, mais je... oui, c'est une rumeur tellement grosse que c'est presque un leak, hein. C'est pas une prédiction.
Oh. Ça me fait penser que l'année prochaine, on a la suite de Mario et Lapin Crétin. Et ça, c'est
ah,
cool.
Ah, effectivement, et ça, c'est cool.
Très, très bien.
Si, il n'y a pas de retard.
Ouais, ça, j'avoue, c'est possible encore.
C'est encore possible. Mais c'est vrai que, putain, je... Alors... On a souvent dit avec Nintendo qu'ils étaient capables de nous sortir un truc du chapeau et de le mettre sur les étagères 2 mois plus tard.
Splatoon 2, c'est ça que j'arrivais pas à trouver tout à l'heure.
Ah, pourquoi pas? Je suis pas sûr.
De quoi?
Y a Astral Chain 3, 2.
Ouais. Bayonetta 3. Attends, il y a Bayonetta 3. Bayonetta ah bon 3.
C'est vrai.
Je ne sais pas si Platinum pourrait pas nous ressortir un petit truc derrière les fagots parce qu'ils ont une capacité de production qui, moi, me fait toujours un peu halluciner.
Moi, je veux Nier Automata sur Switch, bordel.
Je suis bien d'accord. Et Nier Replicant 1.22.44.12.
On dirait une version... Replicant, ça m'étonne que ça soit pas sorti. Hein.
C'est ça, mais le remake du premier, tu vois, à choisir, je prends le Automata.
Oui, non, vaut mieux le Automata.
Mais moi, je serais pas surpris que Platinum nous sorte un truc derrière les fagots, parce que c'est pareil, Astral Chain, on l'avait vu sortir de nulle part. Enfin, je...
Nucléaire.
Vraiment, je serais pas choqué.
Boom Trailer, 3 mois après, je...
Ça m'étonnerait pas que Nintendo nous fasse un truc comme ça sur un truc. Alors par contre, quel titre? Encore une fois, un F-Zero GX HD, les gars, mais allez-y, quoi. Je veux dire, ça vous coûte rien. Allez-y. Faites plaisir à tout le monde. On arrêtera le running gag.
Mettez la trilogie en DLC, hein, que j'ai au moins une prédiction juste.
Oui, et puis mettre la ROM SNES et N64, ça leur coûterait pas grand-chose.
Ah, le bâtard. Sur N64, si tu la ROM N64, mais en 16/9 déjà. peut être preneur, ça. Hein. On peut être preneur. Bref, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous avez raconté beaucoup de conneries dans le Madame Irma, ça va être très drôle l'année prochaine. Hein. Je vous ressors tout, moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, on va vous quitter pour cette saison, on va vous quitter pour cette année, on va vous faire de très 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 gros bisous, on va vous souhaiter une bonne fin d'année aussi joyeuse que possible.
Et oui.
On va vous souhaiter de ne pas tomber sous les coups de l'heure de la planète Omicron Persée 8.
Mm-hmm.
Je le place pour ma femme qui me fait chier avec ça depuis des mois. Enfin, des semaines plutôt. Voilà, et ben voilà, on vous souhaite de bonnes fins d'année. Jouez bien, jouez intelligent, ayez de jolis jeux vidéo pour Noël. On vous a donné quelques idées si vous n'avez pas encore tout raclé les fonds de tiroir. Donc, oui, des Falconir, des Rocky, des Life is Strange, des Shovel Knight, des Ghost Runner, des Road 96. Voilà, des idées, il y en a. Des jeux, malgré tout, on en a eu pas mal cette année, même s'il n'y a rien qui est vraiment ressorti. Énormément du lot. Mais voilà, donc nous, on vous retrouve l'année prochaine, probablement aux alentours du mois de février. Il y aura un Best of qui sortira probablement courant janvier.
En gros, on va revenir au moment où il y aura pas. Nintendo Direct. Hein.
Voilà, on va rentrer en phase d'hibernation en attendant le prochain Nintendo Direct.
On va jouer à des jeux. Comme ça, on a le sujet de la première émission.
C'est ça. Et on espère qu'il y aura d'autres trucs. Et Pokémon,
ah oui,
il y a
Pokémon Arceus. Je reste très curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec ça. Hein. Est-ce que ça va être bon ou pas? C'est vraiment
ça va être compliqué.
Ça va être moche, ce sera peut-être bon.
Écoutez, moi je ne sais pas. En tout cas, on vous fait de gros bisous et on vous dit à l'année prochaine. Ciao tout le monde.
Ciao.
Salut.
Bisous.